Radiophonie.
Quand la psychanalyse donne de la voix.
Roland Gory, Un monde sans esprit, film réalisé en 2020, est en tournée actuellement dans les salles de France. Si ce documentaire filme la pensée du psychanalyste fondateur de l'Appel des Appels, il est d'abord le fruit d'une rencontre, celle de Roland Gory et du réalisateur Xavier Gaillon. Xavier Gaillon n'en est pas à son coup d'essai sur les documentaires. C'est avec un hommage au film de Louis Malle, Place de la République, filmé en 1972, qu'il débute ce parcours. Il reprend alors 30 ans plus tard le dispositif utilisé par le cinéaste pour interroger les passants sur leurs préoccupations, les amenant à livrer leurs pensées lors de ce film en micro-trottoir. Puis c'est vers la Guyane, terre de ses origines, que revient Xavier Gaillon. Il donne alors la parole à ses habitants, témoignant ouvertement de leur identité plurielle, évoquant aussi profondément ce qui constitue l'être humain dans sa pluralité. C'est ensuite vers la poésie contemporaine méconnue que se tourne le réalisateur avec « Les poètes sont encore vivants ». Il y récolte une parole intime et publique à la fois, dans ces nouvelles formes poétiques qui viennent interpeller la société. Deux films documentaires suivront en 2020, Roland Gory, Une époque sans esprit, et Au Clémenceau, filmant les moments de boire et déboire de clients d'un bar populaire de Fréjus, dans leur humanité bousculée par l'addiction, la souffrance psychique, rassemblée dans un lien social ténu, comme dans une famille choisie. Avec le film sur la pensée de Roland Gory, ce sont deux documentaires posant une lentille sur l'état du monde vu par le prisme de l'humain et ses vulnérabilités, loin des idéaux de performance, au plus proche de ses failles. En 2021, Xavier Gaillon revient en Guyane pour y filmer la pensée d'un spécialiste de la culture guyanaise, Auxence Conto, qui livre une réflexion sur ce qui traverse l'individu et la société, le sujet et sa culture. Xavier Gaillon filme ainsi au plus près de la pensée de l'intime, dans ce qu'elle fait surgir, dans ce qu'elle vient saisir avec engagement et humour, et bouscule avec courage et audace. Xavier Gaillon a accepté une conversation avec Anthony Huard pour Radiophonie, juste avant une projection de son film et un débat animé avec le spectateur. Écoutons-les.
Bien, donc Xavier Gaillon, nous nous retrouvons aujourd'hui juste avant la projection du film documentaire avec Roland Gory, Une époque sans esprit, puisque celui-ci circule dans différentes salles de France à l'heure actuelle. Alors, pour commencer justement un peu cette conversation, qu'est-ce qui vous a mené à cette rencontre avec Roland Gory et la psychanalyse en amont de ce documentaire ?
Psychanalyse, je m'y intéressais déjà avant de connaître même Roland Gory, en fait. Roland Gory, je l'ai découvert par hasard sur Internet, parce que à une époque, ça continue un peu aujourd'hui, mais le soir, j'écoutais des conférences sur YouTube de penseurs, et donc je ne sais plus qui j'écoutais ce soir-là, mais il y a un algorithme qui a trouvé une conférence de Roland Gory.
D'accord, qui vous a mené...
La fabrique des imposteurs.
Oui, d'accord.
Celle qui a été beaucoup vue. Là. Oui. Enfin, on dénonce les chiffres, mais on va dire... on dénonce la dictature des chiffres,
les chiffres. Pas les chiffres en eux-mêmes, ce qu'on peut vouloir leur faire dire.
Voilà, Roland et moi, même, on parle beaucoup de chiffres, mais... c'est-à-dire ce qu'il dénonce et ce que je dénonce avec lui, c'est la dictature des chiffres pour nous amener à faire des choix dans nos vies auxquels on ne voudrait pas nous imposer.
Voilà, oui, d'être assujetti à du chiffre et non pas s'en servir comme un moyen de comprendre le monde qui nous entoure. Donc finalement, c'est un algorithme qui vous a mené à Roland Gory, à un moment donné, qui vous mène à cette... à cette vidéo.
Il y avait longtemps qu'un penseur ne m'avait pas captivé autant. Peut-être, ce que j'ai aimé chez lui, c'est son humour, aussi sa pensée avec laquelle j'avais beaucoup d'acquaintance. Je sais pas, j'ai pensé à Bourdieu, je sais pas pourquoi.
Ah,
ouais.
Oui.
Donc parce que Bourdieu, c'est quelqu'un qui avait compté pour moi, grâce à qui j'ai eu le bac.
Ah.
Parce que je faisais de la sociologie.
D'accord.
Et j'ai eu la chance que ce soit ce sujet-là qui tombe, l'opposition Boudon-Bourdieu.
D'accord, d'accord.
Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Alors oui, mais en tout cas, oui, c'est le sujet qui vous a inspiré. Et oui. Donc du coup, il y a eu un écho entre ce moment où vous écoutez Roland Gori et...
Je me suis dit, je suis pas sûr d'avoir eu l'envie avant de faire un portrait de quelqu'un en documentaire. Je faisais plutôt des documentaires avec beaucoup de personnes. Alors j'avais fait un film sur les poètes contemporains, mais il y avait 14 poètes qui parlaient et donc ils se succédaient. Et c'était pas un portrait d'un seul poète. Quoi,
d'accord. Oui.
Sinon j'avais fait des films plutôt sur des rencontres avec des gens plus du peuple. Quoi. Enfin, j'enlevais même ce qui était trop intellectuel quoi, pour avoir un peu un écho des préoccupations des gens.
D'accord, mais à travers une forme de parole finalement.
Oui, j'étais autre. Dès le premier film que j'ai fait, qui était la reprise d'un film de Louis Malle, qui s'appelle Place de la République 30 ans plus tard, on m'avait qualifié de psychanalyste de la République.
D'accord.
Le film s'appelle Place de la République 30 ans plus tard.
D'accord.
Et
donc vous aviez hérité de ce titre.
Bah, en fait, on n'arrêtait
pas de dire...
En tout
cas, on vous a nommé comme tel. D'accord.
Parce que la méthode, en tout cas, du film, c'est d'écouter les gens et de pas du tout orienter leurs paroles et d'avoir leurs vraies préoccupations. C'était en 2002, ça permettait d'avoir l'écho avec 72 quand Louis Malle avait tourné son Place de la République.
D'accord.
Où il allait rencontrer des gens et leur disait on fait un film et on parle avec les gens de quoi, de ce que vous voulez. Et les gens disaient « Oh, mais c'est bizarre, parce qu'on n'est pas des acteurs. » À l'époque, il n'y avait pas encore cette habitude de l'écran. Les gens,
pour eux, ils n'étaient pas coutumiers de l'écran au point de pouvoir s'imaginer derrière facilement et de jouer une scène, finalement. Alors que là, vous allez à leur rencontre. Et ça ressemble finalement au dispositif presque, en effet, de la psychanalyse. Hein, c'est-à-dire, allez-y, dites ce que vous voulez. Et moi, je vous écoute.
Alors, quand ils voulaient pas, quand ils étaient là... parler de ce que vous voulez et qu'ils étaient hésitants, je leur disais « Vous êtes parisien ?» Et puis après, ça lançait la parole.
Voilà, il fallait juste amorcer quelque chose. D'accord. Et donc, oui, dans ces documentaires que vous évoquiez, comme on le disait tout à l'heure, il y a une sorte de trajectoire quand même, de faire parler des poètes, des passants, des habitants d'un endroit. Enfin, on sent qu'il y a une volonté chez vous de faire émerger une parole qui n'adviendrait pas ou qui n'arriverait pas autrement. Enfin, quelle place ça prend chez vous, finalement, dans cette trajectoire-là, de pouvoir faire advenir quelque chose de cet ordre-là? Comment vous la situeriez, vous, cette trajectoire-là?
Au départ, moi, je voulais faire des fictions, mais j'étais tombé sur un film de Louis Malle, déjà, qui s'appelle Calcutta, qui se passe en Inde, qui est un film, aujourd'hui, qui est plutôt dur, parce que je suis allé le voir... dur pour les gens en tout cas, parce qu'il montre vraiment Calcutta, la misère, les traditions, les gens qu'on brûle. Et j'ai vu la moitié de la salle, ça devait être en 2019. Moi je l'avais découvert en 98, c'est ce jour-là que j'avais 23 ans et c'est ce jour-là que je me suis dit je ferais bien du documentaire.
Ah, d'accord.
Alors, ça a été vraiment une rencontre. Je parle de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis allé le revoir à la Cinémathèque et j'ai vu la moitié de la salle partir. Face à la dureté des scènes, mais qu'on voit en Inde, en fait. Donc, je voyais que les gens ne pouvaient plus supporter ça. Je ne sais pas si c'était déjà comme ça à l'époque, mais en tout cas, c'était
D'assister à une grosse surprise. Insupportable. D'accord.
Mais bon, déjà, quand j'ai passé le bac, j'ai eu une petite hésitation, le métier de psy, ça m'aurait plu. Quoi,
oui, d'accord.
Voilà, mais j'avais le rêve d'être metteur en scène, réalisateur, depuis l'enfance, en fait.
Et l'enfance,
oui. Depuis tout petit.
D'accord. Donc finalement, vous avez un peu associé le souhait de réaliser en même temps, tout en ne quittant pas du regard complètement la psychanalyse, en tout cas, l'approche comme ça de la parole.
C'est le hasard, dire, parce que... C'est en voyant les films de l'histoire de la... Enfin, Chronique d'un été de Jean Rouch et d'Edgar Morin, que l'idée de faire un film des années plus tard m'est venue. Mmh. Et il y avait déjà, donc, c'est ce film-là qui a inspiré Place de la République. Et donc, cette façon d'aller interroger les gens dans la rue, enfin, ça touche à la sociologie aussi.
Oui.
Donc, j'avais plus l'impression d'être dans la sociologie que
d'avoir cette fibre-là.
Et donc, j'associais pas que je serais un psychanalyste, enfin, qu'on dirait je psychanalyse la société en allant sur la place de la République. Je le percevais pas.
Oui. Oui, pour vous, ça représentait davantage une approche sociologique, mais en fait, très ancrée aussi dans quelque chose d'assez direct aussi.
Et après, c'est des choses intuitives qui viennent comme ça. On va à la rencontre des passants, et puis j'avais compris qu'il fallait laisser. Parce que j'avais un assistant, parce que comme dans le film de Louis Malle, il y avait déjà un assistant qui l'accompagnait. J'ai rejoué les choses vraiment à l'identique. J'ai cherché la personne près de moi qui était la plus à même de faire parler les gens. Je l'ai entendu dire, alors c'est quelqu'un qui était militant à l'époque, et donc il a dit à quelqu'un, oui, vous avez raison. Et je lui ai dit, non, il faut jamais dire à quelqu'un qu'il a raison, tu le laisses développer.
Ah, d'accord, donc c'était déjà un parti pris.
Non, mais j'avais capté le truc, mais c'était intuitif.
C'était pas intellectualisé, réfléchi, mais il y avait quelque chose qui vous amenait quand même à ça. Quelque part, dans ce que vous dites, d'aller interroger les passants, de faire parler des poètes, etc. Il y a quand même une trame un peu commune qui pourrait être formulée de la façon suivante. C'est-à-dire, c'est partir de quelque chose qui pourrait paraître anodin ou banal, et en fait, de montrer qu'il y a une forme de parole, de poésie ou de contenu beaucoup plus dense, finalement, dans ce côté qui pourrait paraître anecdotique à celui qui s'y attarde pas.
En réalité, pour reprendre le film de Louis Malle, c'était pour moi la simplification totale d'un dispositif, et ça faisait un film d'une heure et demie. C'est à ça que je voulais rendre hommage. Peut-être que j'ai développé ça dans les films que j'ai fait par la suite, parce qu'en fait, il y a une sorte de sobriété que je veux, de simplicité. On part du principe qu'on va manquer de moyens. Et comment créer un film à partir de ce manque de moyens. Éric Rohmer, pour la fiction, il réfléchissait comme ça,
par rapport aux moyens.
Il y a un cinéaste coréen qui s'appelle Hong Sang-soo qui pense à l'économie totale, alors qu'on est dans une société où, de l'autre côté, ceux qui font des films sur les super-héros ne pensent que l'explosion des moyens.
Donc là, finalement, c'est de l'anti-blockbuster. C'est-à-dire, c'est revenir poser la sobriété comme point de départ pour accéder...
La simplicité du dispositif filmique. Et c'est ce que j'essaie de faire avec Roland Gori. Alors d'abord, j'ai réfléchi, est-ce qu'on va le filmer ailleurs que chez lui, en train de... Enfin, je l'ai posé sur un fauteuil. Parce que il y a toutes les conférences qu'on connaît, et je voulais une parole plus différente. Donc qu'il ait un débit plus lent. Des fois, j'ai fait durer, et c'est ce que je fais d'habitude, les interviews pendant 4 heures. D'accord. 4 heures d'affilée, pour que vraiment aussi il y a des choses qui émergent auxquelles on s'attend pas. Et c'est en étant face à lui que tout d'un coup je réagissais d'une façon qui fait, je sais pas si vous avez remarqué dans le film, plusieurs fois il fait bah oui. Juste parce que je hausse les sourcils.
D'accord, donc ça produit ces effets de trouvaille, en effet, qu'on trouve.
Il est là. Parce que sinon, peut-être que j'aurais installé. J'ai remarqué, par exemple, en écoutant certains journalistes sur France Culture, que les gens prennent le ton du journaliste. Il y a certains qui ont un ton très bonjour, je vous reçois, et puis donc la personne. Oui, alors j'ai voulu exprimer ça, et c'est pas juste, c'est peut-être des fois tellement lent, tellement doux que moi c'est peut-être pas ça qui m'attire. J'ai besoin que les gens vivent un peu plus, et puis Roland Gori, de toute façon, je l'ai amené à quelque chose de plus calme que d'habitude, mais
et là aussi, finalement, on n'est pas très loin du dispositif du psychanalyste, hein, c'est-à-dire à travers même un silence ou un sourcil qui se lève ou un mot, finalement, de créer une trouvaille, mais avec un dispositif, comme vous le disiez, qui laisse une place au temps aussi, hein, une temporalité que vous laissez écouler. Et ça, forcément, on ne s'en rend pas compte dans le film, puisque forcément, hein, c'est un peu condensé, hein, mais en même temps, c'est ce que vous avez installé et qui permet d'arriver à ces moments de surprise, en fait. Et donc, vous disiez tout à l'heure, oui, que finalement, c'était un peu en aparté, avant qu'on ne commence, que vous êtes en contact avec Roland Gori au quotidien. Donc, finalement, ça a créé, après ce film aussi, quelque chose d'une relation.
Oui. Roland, c'est quelqu'un de passionné, donc qui vit les choses à fond. Il a une éternelle jeunesse, et donc. Et oui, on a gardé. Bon, après, peut-être qu'on a, des petites affinités, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc oui, on a. Il est très content que le film existe aussi.
De fait, est-ce qu'il y avait une idée derrière ce film, ou c'était juste, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, filmer le plus simplement possible et voir ce que ça produit chez les personnes qui vont le regarder, ou est-ce qu'il y avait une arrière-pensée de transmettre quelque chose? Comment vous l'avez abordé?
Il y a les deux.
Oui.
On va voir ce qui va naître aussi de ce que je ne sais pas qui va pouvoir être dit. Et en même temps, il y a des choses que je voulais, par exemple, lui faire parler quel est le but de la psychanalyse. Voilà, c'est moi qui lui ai posé cette question. Je pense que à un moment, d'ailleurs, comme il est dans plein de chantiers divers et variés, il m'a dit, mais je savais pas qu'on allait parler autant de psychanalyse, donc
oui.
Et je l'avais mis dans un démontage, mais bon, c'était rigolo, parce que c'était.
Ça l'a étonné, finalement, que vous orientez, que vous ayez orienté de plus en temps davantage vers ces questions-là, en fait.
Oui, puisqu'il il se questionne sur les questions politiques aussi. Mais je voulais que... Bon, déjà, c'était offrir... Bon, moi, par exemple, j'aurais aimé aller voir un psychanalyste et lui demander, bon, bah, alors, quel est le but de la psychanalyse?
Voilà, et on n'a pas de réponse. Voilà, c'est ça.
Même dans les livres et tout, c'est assez cool.
Voilà,
assez touffu. Et
et donc là, vous aviez sous la main quelqu'un qui pouvait vous apporter une réponse la plus simple possible.
Enfin, la plus simple, je ne sais pas si c'est la plus simple, mais.
Énoncé simplement, en tout cas, qui n'est pas forcément. Voilà, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complexité derrière, mais en tout cas, il l'énonce.
C'est sa vision, simplement. C'est sa vision de la psychanalyse. Voilà.
Hein. Oui, tout à fait.
Mais sa vision éclaire certaines choses, et pour des. Je ne sais pas. Après, j'ai eu la surprise que plein de psychanalystes m'ont dit merci d'avoir fait ce film, et d'autres qui m'ont dit même carrément, ça me fait penser à mon travail et ce que j'ai oublié de faire. Voilà, je m'attendais à ce que le film soit reçu plus durement par les différentes branches de la psychanalyse.
D'accord, alors que finalement, les retours que vous avez eus, c'était plutôt...
Après, une fois ou deux, il y a eu un truc, mais en présence de Roland Gori, faut revenir à Lacan, il n'y a pas assez de Lacan, mais bon...
D'accord, bon, après voilà, ça c'est une discussion qui pouvait se faire entre psychanalystes, tout cas que vous ayez, vous, de l'extérieur, voilà, un psychanalyste qui vous donne après sa définition de ce qu'est la psychanalyse, comme vous dites, hein, c'est une définition, c'est pas une définition définitive, mais c'était quand même précieux d'avoir cette occasion, enfin un psychanalyste qui va répondre directement à cette drôle de question, à quoi ça sert.
Et donc offrir la possibilité à ceux qui ne sont pas des spécialistes de la psychanalyse, mais qui se posent quelques questions, d'avoir une sorte de réponse, une forme de réponse qui les, peut-être leur fait un peu plus comprendre complexité de comment on va dire ça, de cette discipline.
Oui, c'est ça, oui. Ouais, voilà. Mais comme vous disiez, c'est-à-dire, on entend dans la réponse de Roland Gori, c'est pas une réponse définitive, mais une réponse qui indique, qui montre. Voilà, après, chacun peut y entendre la complexité derrière ou non, mais en tout cas, oui, c'est, déjà, ça indique quelque chose. Et ça, c'est plutôt précieux d'avoir eu un élément de réponse à ce moment-là. Mais ça, du coup, c'était votre part, plutôt, d'apporter, en tout cas, ces questions-là un peu sur le devant pour saisir l'occasion. Donc, et ensuite, que l'articulation avec l'aspect politique, puisqu'on voit bien que dans le documentaire, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un discours sur la psychanalyse et en même temps une articulation très forte à ce que sur le champ politique, voilà, ça a comme incidence. Là, c'était davantage laissé libre dans le propos, ou là aussi, vous aviez orienté sur quel contenu pouvait être apporté?
Non, il y avait une part de... Bon, je savais qu'on allait aborder plein de champs différents, puis qu'on aurait, en tout cas, la parole qui porte en dénonçant le système néolibéral et la gestion néolibérale des lieux comme les hôpitaux, et comment notre société veut imposer une sorte de destruction du monde du travail. Voilà, enfin, c'est ce qui défend. L'autre jour, face au syndicaliste, il a dit oui, le syndicalisme, il faut juste qu'ils n'oublient pas que c'est pas seulement trouver du travail, mais c'est aussi être bien dans son travail. C'est pas tout d'avoir un travail, mais si on le vit mal, son travail.
oui. Et alors, ça pourrait presque, dans la formule, paraître un peu dans l'air du temps, puisque maintenant, en effet, on entend dans les entreprises cette notion de qualité de vie au travail, mais qui est une notion un peu, on pourrait dire, marketing, des fois. Et là, de le dire beaucoup plus simplement, en fait, que l'idée, c'est pas seulement d'avoir un travail, mais d'être bien au travail. Donc, du coup,
il le dénonce à un moment dans le film, il dit... que maintenant il y a des managers qui disent oui, alors c'est être bien au travail, ça va apporter du bien pour l'entreprise, c'est voilà. Juste intéressant que à ce niveau-là. Voilà. Non, si les gens pouvaient être mal au travail et que ce soit bénéfique pour l'entreprise, on irait dans cette direction.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Les neuromanagers, voilà.
Neuromanagers, oui. Oui, c'est un terme assez impressionnant, mais oui. De poser le bien-être au travail comme une finalité et pas comme un moyen. Et c'est là, en effet, toute la différence. De poser le bien-être comme quelque chose, finalement, qui advient parce que ça doit être une finalité en soi et pas un moyen de rentabilité supplémentaire. Et c'est là toute la différence, en fait, de le situer en termes de ou de moyens ou de finalité complète.
De penser la société pour l'humain au lieu de la penser pour les bénéfices des actionnaires.
Voilà, oui, donc de resituer.
Par rapport à un système et donc d'adapter les humains au système.
Oui, donc de recentrer finalement. Et en fait, dans vos documentaires, c'est peut-être un peu ça finalement, aussi un autre trait commun, c'est de recentrer la parole de l'humain comme au centre du dispositif, même jusqu'à votre dispositif filmique, mais aussi au centre du dispositif au sens beaucoup plus général, en fait, que l'humain et sa parole, ça soit ça qui compte et ça qui soit une finalité aussi totalement.
Oui, c'est ça que j'ai voulu. Et c'est pour ça que je sais que le premier film, quand je l'avais sorti, beaucoup de gens disaient que le film était humaniste. Mais je défendais déjà cette conception que la société doit être adaptée pour les humains et pas pour un système. Pas les humains qui s'adaptent au système.
Oui, voilà. Et un système qui soit compatible.
L'école, je pense que on devrait s'adapter aux individus qui sont divers et variés plutôt que de les contraindre à s'adapter à ce qu'on leur apprend et qui est parfois pas intéressant. Donc ça rejoint aussi peut-être l'obsession qu'on a tous les deux sur Jean-Michel Blanquer.
Oui, d'accord. Oui, et ce questionnement autour du système tout inclusif, c'est-à-dire avec toute la bonne volonté qui est derrière un peu ce principe, de dire, d'inclure chaque être humain, chaque enfant dans le système éducatif, mais de quelle façon, là aussi, comme vous dites, est-ce que c'est le système éducatif qui vient vers l'enfant ou est-ce que c'est l'enfant qu'on essaye d'adapter à la norme du système éducatif. Et donc à chaque fois, il y a une forme chez vous de virage, c'est-à-dire de montrer que finalement les choses pourraient se faire dans l'autre sens peut-être.
En tout cas, ça je l'ai ressenti à l'école. Il y a des personnes qui ne sont pas adaptées, quoi. Et que je pense qu'il faut s'adapter à eux parce qu'ils ont peut-être une intelligence différente Et si on les laisse en plan, ils vont se perdre. Et voilà, enfin, je pense que on vient pour apprendre, et pour apprendre, il faut être intéressé. Mais ça, des fois, j'ai pu constater que c'était pas du tout le cas.
Eh oui.
On essaye de faire rentrer des choses.
Oui, c'est ça.
Et j'ai pas l'impression que Jean-Michel Blanquer était, quand il est arrivé, dans cette optique de vouloir que les gens apprennent par passion, mais voilà.
Mais plus d'éduquer des cerveaux. Hein. Ouais. C'était un peu le parti pris avec le recours aux neurosciences pour valider un peu ce principe, hein, que des élèves étaient des cerveaux à éduquer. Hein. Et là, dans ce que vous dites, oui, mais finalement, dans ce chemin-là, on perd de vue le désir d'apprendre, le souhait de se passionner pour une matière, une discipline ou la connaissance de façon plus générale, ou la culture aussi, on pourrait l'appeler comme ça, hein, puisque finalement, si on éduque des cerveaux, on peut aussi se passer de choses qui pourraient paraître inutiles ou superflues. Ouais.
Ben là, par exemple, j'ai été présenté un film, donc j'ai fait un film sur la Guyane et le melting pot guyanais. La complexité de la... En Guyane, il y a plus d'étrangers que de Guyanais qui viennent de plein de pays. Ça crée des situations un petit peu particulières, et donc je suis allé présenter le film plusieurs fois à l'école. Et ce qu'on a remarqué, bon, alors donc dans les élèves, il y a des Brésiliens, il y a des Haïtiens, des gens du Suriname, et donc tout d'un coup, ça les touche vraiment parce qu'ils se sentent victimes de rejet, et on était obligé de chasser les élèves. Ils voulaient continuer à parler 2 heures après qu'on ait commencé le débat.
D'accord, donc, ils avaient encore...
voilà, et donc on leur disait « c'est terminé, c'est terminé, d'accord. Non, j'ai envie de dire ça, et ça. » Et donc face à ça, il y a une école, un collège qui a décidé de passer un documentaire tous les mois.
D'accord.
Pour ce besoin de parler qu'ils ont constaté.
Pour donner cette occasion-là.
Ça a étonné vraiment. Il y avait des politiciens qui étaient là aussi, guyanais. Et je pense que c'est important de faire venir le plus d'intervenants possible à l'école.
Et d'offrir finalement cette occasion de parole, où finalement, c'est là où il y a un effet de surprise aussi, de se dire finalement, ce besoin de parole, c'est pas parce qu'on n'entend pas qu'il n'existe pas. Il suffit de donner les occasions que la parole arrive, et finalement, elle était largement au-delà même de l'espace qui était offert sur le moment. Oui, on revient quand même souvent sur cette parole. Hein. C'est ce qu'elle porte, ou c'est ce qu'elle colporte, ou ce qu'elle transporte, ou transmet. Là aussi, hein, comme étant l'élément déterminant, finalement. Dans l'humanisme que vous évoquez, on pourrait peut-être le définir un petit peu avec les éléments que vous apportez, en disant finalement, c'est un humanisme, mais au sens de comment chacun va énoncer sa propre parole et comment il va être écouté aussi par d'autres. Hein. Ça pourrait être une définition simple, peut-être, de ce que vous évoquez quand vous dites le mot humanisme.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. Enfin, en tout cas, pour la parole.
Oui, pour la parole. Hein.
Pour la parole. Je pense que oui, les gens ont besoin d'être écoutés. Et le film en parle... Quand ils viennent chez le médecin, ils ont besoin d'être écoutés. Les gens deviennent fous hein, quand ils ne peuvent pas parler à quelqu'un. Y a des gens qui vivent en Crète, par exemple. Il y a des hippies quoi, qui vivent dans les grottes. ils voient personne pendant un mois, mais ils deviennent fous. Bon, on est dans une société en tout cas, c'était le cas de Paris, où on voit qu'il y a des gens, ils ont tellement besoin d'être écoutés. Puis les personnes âgées, quoi, qui sont tellement laissées au bord de la route, dont on ne se préoccupe pas du tout.
Et puis pour faire le lien avec peut-être aussi un autre élément que Roland Gori évoque dans le film, il y a peut-être, comme vous dites, cette parole qui va raconter une part de vulnérabilité. C'est peut-être pas une parole qu'on veut entendre, celle-là, en fait. Peut-être qu'on veut entendre une parole avec un discours, ça rejoint un peu ce que vous dites tout à l'heure, bien rodé, bien feutré, un discours qu'on est habitué à entendre, et puis qui soit plutôt sur le versant peut-être de la performance, en fait, hein, de la parole, mais peut-être pas une parole où chacun va évoquer une part de sa vulnérabilité, de ses fragilités, de sa faille. Et ça, c'est peut-être une parole qui a moins, on pourrait dire... lieu de cité actuellement.
Ou peut-être ou peut-être pas. Mmh. Puisque, en fait, le fait que la psychanalyse ait inondé la société, je m'en suis rendu compte en faisant le film sur la place de la République, les gens vont quand même plus exprimer leur vulnérabilité plus facilement. Et puis, ils ont plus tendance à se confier qu'en 72, par exemple. Donc, je pense qu'il y a... Enfin, même pour les hommes qui sont nés dans les années 50 par rapport aux hommes qui sont nés dans les années 70-80, on a une tendance à plus se confier entre nous, entre hommes, ce qui n'était pas le cas avant, je pense. Donc, il y a une libération qui s'est faite quand même, qui est due à la psychanalyse, peut-être au cinéma, et puis à la psychanalyse dans le cinéma, dans le film de Woody Allen, ou de Fassbinder, par exemple. Je pense que oui.
Tout ce qui a irrigué, en fait.
Je pense que c'est plus facile d'être un homme, en tout cas à ce niveau-là, pour notre génération, puisqu'on a que celle de mon père, où il fallait vraiment pas du tout montrer la moindre vulnérabilité, même si ça continue, bien sûr, dans l'entreprise, dans ces choses-là. Mais alors, peut-être que je dis ça parce que je fréquente des gens qui ont cette possibilité et que. Il y en a d'autres qui sont en souffrance de ne pas pouvoir s'exprimer et exprimer. Mais en tout cas, c'est une des choses que je voulais mettre dans le film très fort. C'était qui est une des choses les plus fortes dites par Roland Gori, c'est que c'est par la vulnérabilité qu'on arrivera à changer le monde, quoi, en fait, en refusant de tout mettre sur la force et en acceptant notre vulnérabilité, parce qu'on est inadapté dès l'enfance à ce monde, en fait, et fragile.
Oui, c'est ça. Ouais. Et en effet, il le dit, je pense notamment à un moment donné où il dit que dans la société, on peut souvent avoir des métaphores autour de la guerre, de la force, des choses comme ça, et où en fait tout le langage peut être irrigué sous des effets comme ça de force, de guerre, de rapport de force ou de dégainer le 49-3 là, pour l'actualité, etc. On entend que souvent des termes qui font référence à des notions de force, de rivalité et guerrière un peu. Et là, dans ce que vous évoquez, il y a, en effet, cette idée que il pourrait y avoir une parole qui s'énonce sur un versant plus vulnérable. Mais peut-être que dans ce que vous dites, il y a en effet peut-être l'idée qu'il y a une possibilité pour cette parole d'être énoncée, mais parfois, peut-être ce qui est dans le documentaire, la question qui est-ce qu'elle est entendue, est-ce qu'il n'y a pas une forme des fois d'injonction contradictoire qui serait de pouvoir énoncer une plainte, mais que cette plainte ne soit pas complètement entendue et que la demande, elle, soit de faire comme si cette vulnérabilité n'existait pas. En tout cas, quelque chose qui coincerait un peu l'humain dans quelque chose de... d'impossible à tenir, finalement.
L'autre jour, j'étais à la boucherie. Et tout d'un coup, il y a la bouchère qui demande à une vieille dame, à une dame âgée, « Vous allez bien, madame ?» Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mm-hmm. Et tout d'un coup, elle répond « Non, ça va pas. » Bon, j'aurais pas dû poser la question, alors.
Ah, voilà, c'est ça. Eh bien, voilà, ça résume très bien. Voilà, c'est le syndrome de la bouchère. Voilà. Bah, peut-être que la société
non, est un ça peu fait comme penser dans mon film sur les poètes, il y a un poète qui s'appelle Charles Penquin qui fait un poème sur le ça va. Le ça va tous les jours, le ça va, et puis le jour où on dit ça va plus, les gens sont pas contents.
Voilà, c'est ça, c'était pas la réponse attendue. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est une vulnérabilité, mais à géométrie variable en fait. Il faut la doser et la mettre au bon endroit.
La seule réponse attendue à ça va, c'est ça va.
Voilà, c'est ça. C'est une réponse immédiate et en miroir, mais pas une vraie réponse finalement. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a les réponses apportées dans le discours comme ça, un peu courant, où on ne se rend pas compte de ce qu'on dit finalement. Et puis votre travail qui est davantage sur. La vraie parole, quand on va la chercher, qu'est-ce qu'elle raconte d'autre que les formules comme ça, un peu toutes fabriquées à l'avance. Comme vous disiez tout à l'heure, des fois, ça demande du temps de laisser tourner 4 heures avant que tout d'un coup, il y ait un effet de surprise, de trouvaille. Et où là, finalement, il y a une parole différente que oui, ça va. Enfin, voilà, ces formules un peu convenues qui puissent... laisser place à...
Bah c'est le contraire, en tout cas, de ce que je pense être le film de documentaire. De journaliste, où la personne va couper tout de suite, reposer une question, et laisse pas les personnes sont orientées tout de suite, voilà, et documentaire plus d'écoute, voilà, que j'essaye de faire.
Oui, c'est ça, un documentaire d'écoute. Oui. Ah, oui. Bien, je vous remercie en tout cas voilà, d'avoir accepté cette invitation à Radiophonie. Et puis, voilà, on peut inviter les personnes qui nous écoutent à regarder ou à regarder à nouveau Une époque sans esprit.
Le film, c'est Roland Gori, Une époque sans esprit.
Voilà. Merci Xavier Gaillan.
C'était Radiophonie, une émission proposée par Stéphanie Thor et Anthony Huard et propulsée par l'association La Canienne Internationale.